Bonsoir à tous. Je crois que puisque nous avons besoin de rien d'autre que lui, que personne d'autre que lui, nous allons encore lui solliciter son aide, lui demander pour que je puisse apporter ce qu'il veut que j'apporte et que vous puissiez recevoir ce qu'il veut que vous receviez ce soir. Notre Dieu, notre Père, nous t'aimons parce que c'est vrai. Tu vois notre bien, tu nous aimes au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, voire même penser. Tu as des projets pour nous, pour chacun. Personne n'est mis de côté, personne n'est à l'écart de ta grâce, de ta miséricorde, de ta bonté, Seigneur, et de ton amour. Alors encore ce soir, c'est avec assurance, sans peur, que nous pouvons ouvrir nos cœurs pour recevoir de toi cette bénédiction, cette semence que tu veux déposer dans notre cœur. Le souhait de mon cœur, le souhait de ma vie, Seigneur, c'est vraiment de te plaire. Toi qui as tant fait pour nous, Seigneur, nous voulons maintenant nous donner pour toi et à toi, Seigneur. Donne-nous de pouvoir le faire. En connaissant, Seigneur, la vérité, en la mettant en pratique, même si certaines choses nous sont difficiles à comprendre et à accepter, Seigneur, surtout à recevoir, même si certaines choses nous remettent en question, même si certaines choses, Seigneur, nous font un peu de mal sur le moment, nous savons que c'est comme un médecin qui soigne, Seigneur, et qui opère quelque chose de merveilleux en nous. Alors oui, Seigneur, nous te faisons confiance, nous choisissons de mettre notre foi en toi et en ta parole ce soir, que ton nom soit glorifié pour tout ce qui va découler dans notre vie de ce que nous recevrons. Amen. Amen. Merci Seigneur. J'aimerais que vous ouvriez vos Bibles avec moi, s'il vous plaît, pour faire quelques lectures. Premièrement, dans le psaume, au chapitre 25 et au verset 4. J'ai quelques textes à vous faire lire avec moi pour commencer, pour introduire ces moments. Psaume, chapitre 25 et verset 4. Qui a l'habitude de lire les psaumes? Qui aime lire les psaumes? Moi, j'aime bien lire les psaumes. C'est encourageant. On voit toujours quelqu'un, des fois, qui est abattu, mais qui se relève en fixant ses regards vers le Seigneur. Alors, psaume, chapitre 25 et verset 4. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans la vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Amen. Psaume, maintenant une deuxième lecture. Psaume, chapitre 119. On ne va pas le lire en entier, je vous rassure. Psaume 119, le chapitre le plus long de toute la Bible. Psaume 119 et au verset 30e. Juste ce verset qui dit « Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. » On le relit. « Je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux. » Amen. Et une dernière lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 8 et au verset 32. Jean 8, 32. Peut-être certains connaissent par cœur ce verset. Il est écrit « Vous connaîtrez la vérité » et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Ces trois textes ont un point commun, quelque chose qui est beaucoup annoncé, beaucoup dit dans la parole de Dieu. Il y a même un mot qui est revenu dans les trois versets, qui est beaucoup énoncé dans la parole de Dieu, qui est énoncé à 233 reprises pour dire que c'est quelque chose d'important pour Dieu. C'est le mot « vérité ». Vous êtes d'accord ? Aviez-vous fait ce rapprochement ? Dans les trois textes, il y avait ce mot qui revenait, la vérité. Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité. Je choisis la voie de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. La Bible nous dit que Dieu est le Dieu de la vérité. C'est un Dieu de vérité. Elle l'appelle le véritable. Dans 1 Jean, par exemple, il est dit que Dieu s'appelle le véritable. Le Père est appelé le véritable. Jésus a dit lui-même, je suis la vérité. Je l'ai dit, le mot vérité est beaucoup énoncé, beaucoup marqué dans la parole de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de nous faire connaître toute la vérité. Encore est-il écrit dans Jean 16, verset 13. Toute la vérité, pas un peu de vérité, mais la volonté de Dieu, c'est de nous faire connaître toute la vérité. Quel est l'inverse, l'opposé de la vérité ? Le mensonge. Le mensonge. Et nous, Dieu, il nous dit, non, je veux vous annoncer toute la vérité, tout ce que vous avez besoin de savoir pour votre vie, je veux vous l'annoncer. Et c'est pas des histoires, ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des mensonges, mais c'est la vérité. Dieu de son côté est le Dieu de la vérité. Quel privilège nous avons de savoir que Dieu ne nous trahira pas, mais que Dieu veut vraiment nous conduire dans la vérité. Amen. Le monde, lui, de son côté, vit loin de la vérité. Avez-vous remarqué que tous, on a des écrans, et on travaille sur ordinateur, maintenant c'est tablette tactile, etc. On est plongé dans un monde d'illusions. C'est l'opposé. Et tout ce qu'on touche, tout ce qu'on a l'impression de voir, en fait, ce ne sont que des codes, mais ça n'existe pas physiquement parlant. Il suffit d'une coupure de courant pour qu'on réalise que toutes ces choses sont bien illusoires et virtuelles. Hein, c'est le monde du virtuel. Il y a quelques jours, avec mon épouse, le soir, alors qu'on commençait à faire à manger tout ça, il y a une coupure de courant juste chez nous. Je suis allé voir les voisins, j'ai vu de la lumière chez eux, j'ai sonné, ils n'ont pas répondu, mais j'ai vu que c'était éclairé tout ça. Je suis allé voir d'autres voisins de l'autre côté, il a fallu marcher un peu, mais il n'y avait rien. J'ai appelé, voilà, avec mon portable, il restait un tout petit peu de batterie, je n'avais pas pris mes précautions. Mon épouse, c'était pareil, alors j'appelle, je dis, écoutez, voilà, on a un souci, est-ce qu'il n'y a pas une coupure sur la barre de surlaise ? Non, non, je n'ai rien du tout. Alors c'est chez moi. Eh bien, désolé, il faudra attendre demain matin, on vous enverra quelqu'un, pas avant 8 heures. Je dis, bon. Et c'est, il y a quelques jours, il faisait encore très très froid. Je ne sais pas si vous avez vu, la température s'est descendue à 4 degrés cette nuit-là. 4 degrés, plus de chauffage, pas de cheminée, rien. Plus de téléphone, puisque mon portable s'est éteint, il n'y avait plus que celui de mon épouse. Alors là, on fait tout pour économiser la moindre seconde. D'habitude, c'est illimité les forfaits, mais là, on se met à économiser. Et quand on n'a plus l'électricité, on réalise que c'est bien important, hein, l'électricité. Et on fonde tout maintenant sur l'électricité. Vous savez que j'ai une chaudière électrique. Comment on dit une chaudière ? Oui, c'est une gazinière. C'est pas une gazinière, c'est plus une gazinière. C'est de quoi chauffer là les plats, la nourriture, c'est électrique. Donc au moment même, plus d'électricité, donc on peut plus rien faire chauffer. Le micro-ondes, mais non, plus de micro-ondes, plus rien. Tout est virtuel. Et là, on le réalise. On réalise que finalement, eh bien, les bougies, ça sert. Et puis j'avais trouvé quelque part des bougies et le matin j'ai pu servir un café chaud aux électriciens qui sont venus et ils ont dit mais comment vous avez fait ? Ils étaient même surpris. Hein. J'ai dit mais venez voir, il y avait 4 bougies qui chauffaient une casserole au bout d'une heure, ça a réussi à faire fumer l'eau, hein, même pas bouillir mais fumer l'eau. Et on a pu boire un café et c'était bien, on a pu parler un petit peu mais on est dans le monde d'illusions, il n'y a plus de vérité. Et même la vérité est appelée, le mensonge est appelé vérité, vérité est appelée mensonge, etc. On ne sait plus discerner notre droite de notre gauche. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Et j'aimerais parler quelque chose qui n'est pas facile à aborder. C'est non pas de la vérité, c'était pour introduire, mais du mensonge. Du mensonge. J'ai vraiment de la peine dans mon cœur de voir que beaucoup de personnes avec qui je discute, même dans les églises, même en dehors, mais même chez les chrétiens un petit peu, les gens... ne pas réaliser ce que c'est vraiment le mensonge et quelles sont les conséquences du mensonge. Alors de manière très très simple, je voudrais aborder ça avec vous ce soir, le mensonge. Que dit Dieu sur le mensonge ? Est-ce que Dieu ment ? Le mensonge peut-il être pardonné ? Et quelles sont les conséquences pour celui qui choisit la vérité ? 4 choses très très simples qu'on va voir ce soir. Je vous citerai des versets, le premier... Quant à ce que Dieu dit sur le mensonge, c'est dans Lévitique 25:17, « Aucun de vous ne trompera son prochain et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » Quand Dieu donne la loi, il donne des consignes, il donne des conseils, il dit aux hommes, il donne aux hommes une loi, c'est pour mettre en évidence le péché, ce qui déplaît à Dieu, ce qui prive l'homme de la bénédiction de Dieu. Et dans Lévitique 25:17, une partie de la loi, il est écrit ceci, « Aucun de vous ne trompera son prochain. » Et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. On a dit que la vérité, c'était écrit 233 fois, le mot vérité juste, et tout ce qui est mensonge, mentir, menteuse, etc., plus de 166 fois. Et dans Jean, chapitre 8, verset 44, il est dit, d'où vient le mensonge ? D'où est l'origine du mensonge ? Lorsque le diable profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car le menteur, il est menteur et le père du mensonge. Voilà ce que dit la Bible sur le mensonge. Ça ne vient pas simplement de la vie, tout simplement, mais le père du mensonge, le premier à avoir menti, le premier qui a aimé le mensonge, etc. Et celui qui répand le mensonge, qui pousse les hommes à se mentir les uns les autres, c'est le diable. c'est le diable. Et quelqu'un qui ment, il n'a pas pour père Dieu. Ce n'est pas possible. Et c'est difficile de dire ça, mais c'est important de savoir que celui qui aime le mensonge, celui qui pratique le mensonge, il a pour père le diable. Et il déplaît à Dieu, il attriste Dieu. Et si quelqu'un avait connu Dieu et reprenait le mensonge dans sa vie, se réhabituait, il attristerait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit commencerait à l'avertir par amour, à le prévenir, puis petit à petit à se retirer, jusqu'à peut-être se retirer totalement de lui et lui ôter ce qu'il avait reçu, le salut. C'est très très important de réaliser que le mensonge, aussi petit soit-il à nos yeux, a pour origine l'ennemi de nos âmes, le diable lui-même. Il est père du mensonge. Est-ce que vous aimez quand on vous ment? Je n'aime pas ça. Moi, le premier, je veux qu'on me dise la vérité. Parce que quand on apprend qu'on nous a menti, qu'on nous a trahi, c'est comme une blessure qui se fait là. J'ai été trahi. On m'a menti. Vous avez connu ça, hein, le mensonge? On m'a menti pendant des années, on m'a dit ceci, on m'a fait croire ça, et en fait, c'était que du mensonge. Et ça a l'origine, pour origine, le diable. Dans Apocalypse, au chapitre 21, verset 8, il est dit « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Aujourd'hui, on ne croit plus à l'enfer. Comme on ne croit plus qu'il y a des mensonges ou de vérités. On ne croit plus tout ça. Mais la Bible va faire quelque chose d'incroyable. L'apôtre Jean, alors qu'il est âgé, alors qu'il connaît le Seigneur, qu'il est dans tout, il a quand même toute sa tête, hein, il dit de la part de Dieu, il reçoit quelque chose de la part de Dieu. Il va dire que les menteurs sont au même rang que les meurtriers. Vous l'avez lu comme moi? Vous l'avez entendu en tout cas? Les lâches, les incrédules, les meurtriers, les impudiques, tout ça, les idolâtres et les menteurs. C'est au même rang, ça a la même conséquence. Ceux qui aiment l'idolâtrie, qui, vous savez, dans l'Antiquité, on voyait des enfants être offerts, des nouveau-nés être offerts sur des idoles qu'on avait chauffées à blanc, qui étaient de métal et qu'on avait chauffées à blanc, on mettait les enfants dessus, c'était horrible, on sacrifiait des hommes, des femmes, on a sacrifié des enfants à des idoles, des choses horribles. L'idolâtrie, dans la Bible, c'est quelque chose d'horrible et de dur. Et Dieu va mettre le mensonge dans les mêmes choses que le meurtre, l'idolâtrie, toutes ces choses. Et parce qu'il nous aime, il nous dit que c'est grave le mensonge. Parce qu'il nous aime, il nous dit que les conséquences du mensonge sont catastrophiques. Dans Psaume, chapitre 5, verset 6, dernier texte que je vous cite comme cela, Dieu fait périr les menteurs. Moi, je croyais que Dieu était amour. Je croyais que Dieu était patient, que Dieu était miséricordieux, etc. J'ai toujours cru ça, non? Et pourtant, il est dit, psaume 5-6, Dieu fait périr les menteurs. Vous croyez que la conséquence du péché, le salaire du péché, c'est la mort? Et que le salaire du mensonge, c'est la mort spirituelle? Mais on va même voir que, dans une circonstance bien particulière, Dieu nous a montré que c'était grave le mensonge, au travers de deux personnes. Deux personnes qui se sont permis de mentir à Dieu. Parce qu'on croit qu'on manque aux hommes, on se ment entre nous, mais il y a aussi une offense que l'on fait à Dieu quand on ment. Ça a un impact dans le ciel, ça a un impact dans le monde spirituel, ça nous sépare de Dieu, ça attriste Dieu et ça l'empêche de nous bénir. C'est un peu noir ce que je dis pour l'instant, mais je crois que c'est important qu'on comprenne vraiment les conséquences du mensonge. Prenez avec moi, on va le lire ensemble. Actes chapitre 5, versets 1 à 11. Je crois et je suis toujours convaincu que Dieu est amour, que Dieu est miséricordieux, que Dieu est patient, lent à la colère, riche en bonté. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne regarde pas à nos péchés, qu'il les laisse de côté et que ça n'a pas de conséquences. Au contraire, s'il nous dit tout cela, c'est bien parce qu'il nous aime. Actes chapitre 5, verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan, on revoit le même, hein, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole, « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Vous auriez été pareil d'avoir une grande crainte? Moi, j'aurais été là ce jour-là, dans l'église, imaginez-vous. On le voit juste avant, des hommes, des femmes vraiment sérieux, aimant le Seigneur, ont voulu donner même leur bien à Dieu pour que ça puisse être au service de la gloire de Dieu, du royaume de Dieu, des frères, des sœurs qui étaient en difficulté. Ils avaient vraiment un cœur pour Dieu. Et eux, ils ont voulu faire pareil, ils ont voulu faire semblant. Dans le mensonge, il y a cette notion de faire semblant, d'être hypocrite, vous voyez, de faire semblant, de paraître. Et Ananias et Saphira se sont arrangés, ils ont fait cette chose, ils ont arrangé tout ça, et ils sont arrivés, ils se sont présentés comme les autres, vous voyez, nous aussi on aime Dieu, nous aussi on fait des efforts, nous aussi on se sacrifie pour Dieu, etc. Et puis alors que Pierre pose la question, etc., la personne meurt, le mari, la femme arrive derrière, il pose la même question, la femme meurt, j'aurais une crainte. Bon, est-ce que vous pensez que Dieu maintenant, tous les menteurs, il va les faire mourir? Je crois qu'il n'y aurait plus personne sur la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Malheureusement. Mais tout ça, je crois que Dieu n'a pas de raison forcément de reproduire ça. À chaque fois en tout cas. Peut-être l'a-t-il reproduit depuis, j'en sais rien. Je ne pense pas qu'il y ait de raison de le refaire. Mais s'il l'a marqué, s'il l'a fait, c'est pour qu'on réalise qu'il n'y a pas de petit mensonge, il n'y a pas de grand mensonge, il n'y a pas de mensonge arrangé, tu comprends? Elle n'est pas apte à l'entendre, alors il vaut mieux se taire. Mais ne pas mentir. Ne pas mentir. Le mensonge, c'est grave. Le mensonge, ça a un impact sur la terre, mais ça a un impact dans le ciel. Ça attriste le cœur de Dieu qui a fait les hommes pour une bonne chose, pour une relation avec eux, pour une vie d'épanouissement, une vie qui vaut la peine. Et même s'il y a des difficultés, une vie vraiment dans sa présence, avec une paix, une joie qui demeure, et pourtant l'homme se permet de pécher. Et l'un des péchés dont on parle ce soir, c'est le mensonge. Voilà. Le mensonge, c'est grave. Et si Dieu avait dit à son époque, peut-être 1000 ans plus tôt, je ne sais pas vraiment à quelle époque, s'il avait dit que Dieu fait périr les menteurs, ce qu'il avait dit, il l'a fait. Notre deuxième question était, Dieu ment-il ? On voit bien que, autant dans les choses mauvaises que dans les bonnes choses, Dieu ne ment pas. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit à la lettre. Et Dieu, on peut être sûr d'une chose, c'est que s'il y en a un qui ne nous trahira pas, c'est Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il nous aime. Et quand on aime, on dit la vérité. Quand on aime, on dit la vérité. Il est écrit dans le livre des Proverbes, « Mieux vaut la blessure d'un ami que le baiser d'un ennemi. » Vous êtes d'accord ? Vous comprenez cette image ? C'est très très clair. Il vaut mieux peut-être la blessure d'un ami. Et Dieu nous dit, peut-être ça blesse quelqu'un de savoir que le mensonge, c'est pas bien, ça, c'est grave, tout ça. Peut-être quelqu'un a du mal à l'entendre, mais c'est parce que Dieu vous aime et il veut vous dire, il veut couper ça de votre cœur, qu'il n'y ait plus de part pour le mensonge dans votre cœur, et vous dire le péché, ça a des graves conséquences. Et si on ne meurt pas tout de suite sur place, le péché peut nous mener loin de Dieu pour l'éternité, dans cet endroit qui est appelé la seconde mort, l'enfer. C'est la preuve, oui, Dieu ne ment pas. Dans Nombre, chapitre 23, verset 19, il est écrit quelque chose qu'on va lire ensemble. Nombre, Lévitique, Nombre, chapitre 23, si vous n'avez pas de Bible, écoutez, très très simple. Nombre, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ? Tout ce que Dieu dit, il a réfléchi avant de le dire, il sait qu'il va pouvoir le faire, il ne s'engage pas à des choses qu'il n'est pas capable de faire, qu'il n'est pas capable d'honorer. Quand Dieu dit quelque chose, on peut lui faire confiance, il fait ce qu'il nous dit. Comme on a vu qu'il a fait quelque chose de mauvais, hein, envers Ananias et Saphira, mauvais dans les conséquences pour eux, bien sûr. Dieu a fait des promesses à certaines personnes dans la Bible. Je ne veux pas vous laisser qu'avec un côté négatif, mais c'est bien la preuve que Dieu honore sa parole. Un jour, il y avait un homme qui s'appelait Siméon. C'est comme ça que j'ai appelé mon fils, hein, vous allez dire comme par hasard. Le dernier, je l'appelais Siméon. Pourquoi ? Parce que ça m'a fait penser, déjà j'aimais le prénom, question d'esthétique, mais aussi ça m'a fait penser à ce prophète qui était là et qui avait reçu du Saint-Esprit, de la part de Dieu, une parole « Tu ne mourras pas que tu n'aies pas vu le Sauveur du monde, le Messie ». Et comme par hasard, cet homme se retrouve poussé par l'Esprit de Dieu pour aller au temple un certain jour particulier. Il n'y avait pas forcément de réunion, il n'y avait pas de planning bien établi qu'il fallait qu'il aille au temple ce jour-là, mais poussé par Dieu, il est allé là-bas et quand il arrive, il voit ce bébé, il voit cet enfant et il reconnaît que c'est le Messie. Il le prend dans ses bras, il remercie Dieu et il est en paix, il dit « Maintenant je peux partir, j'ai vu ». Le Messie, Dieu m'avait dit quelque chose, il l'a fait, il a honoré sa parole. C'est dans Luc chapitre 2, verset 25, si vous le cherchez. Abraham, un homme qui n'avait pas d'enfant, qui ne pouvait pas avoir d'enfant puisque sa femme était stérile, a reçu un jour une parole de Dieu. Ta postérité sera plus nombreuse, aussi nombreuse, comme les étoiles du ciel, on ne pourra pas la compter en tout cas. Il a dit, vas-y, lève les yeux vers le ciel. Il commence, il dit, compte. Je ne sais pas, il a peut-être essayé, un, deux, trois, oh là là, il ne pouvait pas. Il a dit, ouais, ta postérité sera comme les étoiles du ciel, on ne pourra pas la compter. Tu vois le sable, les grains de sable sur la plage ? Vous avez déjà essayé de compter ? C'est pas la peine, hein ? On n'y arrive pas. Tu vois le sable ? Mais ta postérité sera pareille, on ne pourra pas la compter. Est-ce que ce n'est pas ce qui s'est passé ? Vous avez vu le nombre de juifs qu'il y a sur la terre ? Et au-delà simplement des juifs, vous avez vu le nombre de chrétiens qu'il y a depuis qu'Abraham et Abraham, un des hommes qui ont été sauvés par leur foi, puisque c'est bien là le moyen d'être sauvé. Et puis Jésus. Combien de prophéties ont annoncé la venue du Seigneur Jésus ? Plusieurs centaines de prophéties dans l'Ancien Testament parlaient de la venue d'un sauveur. Et plus personne n'y croyait au bout d'un moment, ou alors des gens croyaient des choses qui n'avaient plus rien à voir. Mais Jésus est bienvenu. Jésus est bienvenu. Jésus lui-même a dit, le troisième jour, je ressusciterai. Et il n'a pas menti. Est-ce que vous seriez engagé, vous, dire, quand je vais partir, le troisième jour, je vais ressusciter ? Personne n'a cette capacité, personne ne pouvait. Et Jésus, sachant qu'il venait du Père, sachant qu'il était le Fils de Dieu envoyé de la part de Dieu, il est venu de Dieu, il a dit « Je ressusciterai ». Et il est ressuscité. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui croient que parce que Jésus a dit qu'il reviendrait, il va revenir ? Moi je crois au retour du Seigneur Jésus. Monsieur Gouma fait peur ? Non. Le Seigneur a dit qu'il reviendrait. Combien sont ceux qui attendent le retour du Seigneur ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est important. Si Jésus l'a dit, c'est la vérité. De la même manière qu'il a exécuté tout ce qu'il avait dit avant, il fera de la même manière, il va revenir chercher les siens, ressusciter ceux qui seront déjà partis, et puis il va les emmener avec lui dans le ciel. Ça va être merveilleux. Troisième chose, le mensonge peut-il être pardonné ? Parce que c'est important. Si le mensonge c'est grave, si j'ai pris tant de temps pour vous expliquer que Dieu est attristé, que Dieu n'approuve pas le menteur et le mensonge, il faut aussi qu'on parle du reste. La bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est que le mensonge peut être pardonné comme tous les autres péchés. Avec Dieu, il n'y a pas de péché trop grave qui ne puisse être pardonné. Il n'y a pas de tâche trop sale qui soit sur ta renommée, sur ta conscience, qui t'accable, qui te culpabilise, qui ne puisse être ôtée par le Seigneur. Il y a des conditions, lesquelles ? Psaume 32, 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Le Seigneur, non seulement il efface le péché, il efface les conséquences éternelles de notre péché, mais en plus il efface la peine de notre péché. Peut-être quelqu'un est accablé par le poids des mensonges qu'il a dit dans sa vie. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce message particulier, mais je crois qu'il n'y a pas de hasard. Et si vraiment je suis inspiré, je crois que quelqu'un a besoin d'entendre ce message ce soir. Quelqu'un ploie peut-être sous la culpabilité parce qu'il a menti, il a vraiment menti, il a vécu un mensonge et il n'arrive pas à dire la vérité, il n'arrive pas à avouer, à régler une affaire dans sa vie. Et il se retrouve comme lié un mensonge en entraîne un autre et un autre et un autre, c'est comme un engrenage. Il se retrouve prisonnier, prisonnier. Le Seigneur peut vous pardonner, peut te pardonner, mon ami, ce soir, et te délivrer du poids du mensonge. Il peut effacer les conséquences du péché, mais aussi la peine de ton péché. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, il ne progresse pas, il ne grandit pas. Peut-être quelqu'un a accepté le Seigneur Jésus, etc., mais il y a une chose qu'il n'a pas voulu avouer, un secret, quelque chose qu'il n'a pas voulu régler. Et Dieu lui a demandé de le régler parce que ça l'empêche d'avoir une conscience pure et propre devant lui et d'être au bénéfice de toutes ses promesses. Il dit, c'est pour ça, si tu ne grandis pas, si tu n'arrives pas à marcher dans mes voies, à être heureux quand tu vas à l'église, si tu n'arrives pas à être heureux quand tu prends la Bible dans ta chambre ou dans ta maison, si tu n'arrives pas à trouver la face de Dieu dans les moments que tu choisis pour t'approcher de Dieu dans la prière, peut-être c'est parce que tu caches quelque chose au Seigneur encore ou quelque chose dans ta vie à quelqu'un d'autre. Et le Seigneur voudrait te dire d'abord, confesse ton péché à moi, confesse-moi ton péché. Toi et moi, on va discuter de ça. Je voudrais que tu m'avoues, que tu confesses, que tu avoues ces choses. Confesser, ça veut dire avouer. Et puis peut-être, tu sais pas comment tu vas faire, mais je vais t'aider pour aller régler cette affaire, s'il y en a besoin. Des fois, il y a des choses qu'il faut régler. Il y a des mensonges qu'il faut régler, qu'il faut avouer. C'est tellement gros que ça détruit notre âme, ça détruit l'intérieur de nous-mêmes. Et le Seigneur voudrait nous guérir complètement, et ça passe par non seulement avouer à Dieu, mais aussi avouer à quelqu'un de particulier. Vous comprenez ? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse, il ne faut pas vouloir recommencer. Des personnes disent « Seigneur, pardon », mais ils savent que dans 3 jours, ils vont recommencer. Ce n'est pas ça. Hein. Une vraie repentance, c'est vraiment dire « Seigneur, je te demande pardon, je t'avoue et j'abandonne. J'abandonne ces choses. » Celui-là, celui qui les délaisse et qui les avoue, il obtient miséricorde. Je vais être très très basique. Miséricorde, je le découpe en deux. C'est une corde qui est jetée dans le puits de ma misère pour me sortir de là. Miséricorde, c'est Dieu qui me jette une corde pour me sortir de mon trou, pour me sortir de ma misère. Ça vous va ? Ça colle aussi à la définition. Vous êtes d'accord ? Dieu, qui ne nous traite pas selon nos offenses, il nous fait miséricorde. Il nous sort. Tout cela. Il nous délivre du péché. Je crois que ça fait partie de la miséricorde de Dieu. 1 Jean chapitre 1 verset 9, je termine avec ce troisième point. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Toute iniquité. Pas la moitié, pas que quelques iniquités. Toutes nos iniquités, tous nos péchés peuvent trouver le pardon auprès de Dieu. Il suffit que j'arrive devant lui, que je vienne devant lui, par la foi, pas avec mes jambes physiques, mais avec les jambes de mon cœur, avec cette soif, cette envie de régler cette affaire devant lui, et lui dire, Seigneur, je t'avoue ma transgression, je t'avoue mon mensonge, et je te demande pardon, j'abandonne cette vie de mensonge. Et maintenant, je veux marcher dans la vérité. Quelles sont les conséquences, quatrième point, pour celui qui aime et qui chérit la vérité ? Quelles sont les conséquences dans la vie de celui qui choisit les sentiers de la vérité comme on l'a lu au tout début ? Psaume 24, verset 4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Quelqu'un qui choisit les voies de la vérité, la voie de la vérité, qui choisit de se détourner du mensonge, qui ne souille pas son âme avec le mensonge, qui dit « moi je veux être vrai », choisit la vérité, même si ça coûte des fois, même si ça demande du courage, même si ça demande aussi des fois eh bien de l'humilité, d'avouer eh « bien oui, j'ai pas fait ça que je devais faire » ou « j'ai fait ça que je devais pas faire », même si ça me coûte, je choisis maintenant, aujourd'hui, de suivre le chemin de la vérité. Celui qui a des mains innocentes et un cœur pur, comment est-ce qu'on peut être innocent et pur puisque tous sont péchés ? La Bible dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Alors comment ? Comment est-ce que je peux avoir ? Eh bien si, j'ai déjà réglé cette affaire. J'ai demandé pardon. Quand je demande pardon au Seigneur, le Seigneur me lave de tout péché, on l'a lu juste avant. Et alors, puisque je ne livre pas mon âme au mensonge, ou plus mon âme au mensonge, et que je ne jure pas pour tromper les autres, j'applique la décision que j'ai prise, alors j'obtiens la bénédiction de l'Éternel. Qui veut être béni de Dieu ? Moi je veux. Les deux mains, les deux pieds, tout ce que je veux, tout ce que je peux, tout entier. Je veux dire, Seigneur, je veux ta bénédiction. Je veux ta bénédiction et tu me donnes le chemin à choisir. Tu me donnes la route, la direction à prendre. Merci Seigneur. Il aurait pu dire, débrouillez-vous. Mais parce qu'il nous aime, il nous dit, voilà le chemin. Voilà la route qu'il faut suivre. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Jésus est un Dieu de vérité. Jésus, c'est celui qui s'appelle la vérité. Choisir le chemin de la vérité, c'est avoir la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. C'était la suite du verset 24. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Combien de personnes, peut-être des fois, pataugent dans des péchés, dans des choses où ils voudraient tellement servir Dieu. Ils aiment tellement le Seigneur au fond de leur cœur, comme le pasteur Gaud nous l'avait dit une fois, hein, c'est pas le tout d'aimer Dieu. Beaucoup de personnes, ils aiment Dieu de tout leur cœur, mais ils n'ont pas la crainte de l'Éternel. Et peut-être quelqu'un est là, il aime Dieu, il comprend pas pourquoi il n'y arrive pas, pourquoi il patauge, pourquoi il est là comme dans un sable mouvement, il appuie, mais plus il appuie, plus il fait d'efforts, plus il s'enfonce. Peut-être parce qu'on ne s'est pas totalement abandonné à Dieu. Point de dire, je t'ouvre mon cœur et j'accepte que tu regardes à l'intérieur. J'accepte que tu me dises, ça, c'est pas bon, jette-le. Ça te manque, reçois-le. On n'a aucun effort à fournir de nous-mêmes pour mériter le salut. On a juste à ouvrir notre cœur et à laisser notre vie dans les mains de Dieu. Et les efforts, après, ce ne sera plus pour être sauvé, mais ce sera pour remercier et honorer celui qui nous aura sauvés. Oui, Jésus va dire, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comment savoir ce qui est vrai de ce qui est faux? Comment reconnaître le vrai du faux? Si ce n'est par la Bible, si ce n'est par la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Il ne nous mentira jamais, 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 jamais. Et s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, etc., et il faut lui faire confiance. Il est dit, le Saint-Esprit vous sera donné et il vous conduira dans toute la vérité. Faisons confiance. Dieu nous éclairera si on est honnête avec Dieu, si vraiment on veut honorer Dieu dans notre vie, on a choisi de se détourner du mensonge et qu'on veut marcher dans la bonne direction, on peut faire confiance à Dieu, il nous conduira dans la bonne direction. Il nous montrera le sentier à suivre. Il nous montrera. On peut vraiment et on doit lui faire confiance. Alors, quelles conséquences? La bénédiction, la miséricorde de Dieu, et là nous voulons lire, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Quelles sont les conséquences de celui qui choisit de suivre la voie de la vérité? Ben, il sera prêt pour le retour du Seigneur Jésus. J'ai dit tout à l'heure que Jésus va revenir chercher les siens. Peut-être, je parle plus à l'assemblée, à l'église, quelqu'un qui connaît l'évangile, Jésus va venir chercher les siens, ceux qui marchent dans la vérité. Si je marche dans la vérité, eh bien, je vais être sanctifié. C'est-à-dire que je vais être à part du monde. On va voir la différence entre le monde et moi. Je vais être propre parce que j'aurai gardé mon cœur pur. J'aurai gardé mes mains pures qui ont été lavées par le Seigneur. J'aurai reconnu la valeur de cette pureté qui m'a été donnée. Et j'aurai tellement d'amour pour ce que Dieu a fait que je vais tout faire pour rester dans cette pureté et m'éloigner de ce qui pourrait souiller mon âme. Et celui qui marche dans la vérité, qui rejette le mensonge, il est prêt pour le retour du Seigneur. Il est sanctifié. Et il dit, marcher dans la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et le fait de choisir la vérité, c'est être prêt pour pouvoir être enlevé avec le Seigneur Jésus ou être prêt pour le jour où je quitterai cette terre pour ouvrir les yeux dans le ciel, puisque je me suis préparé. Imaginez-vous, quelle grâce d'avoir choisi la vérité, d'avoir relevé ce défi de marcher à contre-courant de ce monde, de dire non, je ne veux pas vivre dans l'illusion, dans le mensonge, je veux marcher dans la vérité. Ça veut dire que le jour où on mourra, on ouvrira les yeux dans un ciel merveilleux, dans la présence de Jésus. On verra notre Sauveur face à face, on sera ébloui par sa gloire, on sera là bouche bée. Je ne sais pas comment ça va faire, mais ça va être extraordinaire, merveilleux. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voulez vivre ces choses comme moi? Alors choisissons la vérité. Rejetons le mensonge. Poursuivons la vérité, aimons la vérité, la parole de Dieu, nourrissons-nous de la vérité pour qu'elle prenne de plus en plus de place, et quand le mensonge pointe son nez, on reconnaisse l'illusion, le virtuel, et qu'on choisisse plutôt la parole, le conseil de Dieu. Tout à l'heure, une jeune femme venait me voir, elle me disait, voilà, est-ce que vous pouvez nous marier avec mon conjoint? Voilà, ça fait 20 ans que je marche avec le Seigneur, mon conjoint, celui avec qui je veux me marier, il n'est pas chrétien, je lui parle un peu du Seigneur, mais on va faire ça dans une église dont il fait partie, et puis après on voudrait la bénédiction de votre église. J'ai dit, mais vous êtes sûr que vous avez choisi il y a 20 ans de marcher dans les voies du Seigneur? Elle me dit, oui. Et votre baptême, qu'est-ce qu'il voulait dire? Ben, je voulais être sauvé. Je dis, d'accord, le baptême, c'est un engagement. C'est s'engager à obéir à Dieu parce qu'on lui fait confiance. On sait que lui obéir, c'est être sauvé, c'est être béni de lui. Et je dis, vous avez déjà lu ce texte? Et je lui prends un texte qui dit de faire attention aux alliances que l'on fait. De ne pas se mettre sous un joug étranger. Oui, mais je crois que des fois, la Bible a dit des choses, mais d'autres fois, Dieu, dans notre circonstance, Dieu nous dit d'autres choses. C'est exactement ce qu'elle m'a dit. Je lui ai dit, écoutez, je dois être honnête avec vous. Voilà, je crois que ce n'est pas ça que Dieu dit. Toute cette parole de Dieu qu'il donne face à face ou dans notre cœur confirme ou est confirmée par la parole de Dieu. Et elle m'a dit, bon, mais je n'ai pas le temps, je dois aller chercher ma fille. Ils aimeront plus le mensonge que la vérité. Il n'y aura plus l'amour de la vérité. Dans la fin des temps, les gens préféreront des fables, des histoires, des choses illusoires, spectaculaires, plutôt que la vérité. Et je suis triste pour cette femme, je ne la juge pas, je ne veux pas la condamner. Ce n'est pas mon rôle. Ce que je veux dire, c'est que si Dieu nous dit des choses, il ne veut pas nous tromper, il ne veut pas notre malheur, il veut notre bonheur. Et il nous dit la vérité. Et pour celui qui choisit la voie de la vérité, alors celui-là est béni, celui-là reçoit la miséricorde de Dieu, ses péchés sont effacés et il se tient prêt pour le retour du Seigneur. N'est-ce pas là un des trois signes d'une réelle conversion? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, il est dit, voilà comment vous êtes convertis, en fuyant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et attendre le retour du Fils, l'avènement de son Fils bien-aimé. N'est-ce pas là la marque d'un réel engagement avec le Seigneur? Aimer la vérité, attendre le Seigneur. Je me tiens prêt quand j'aime la vérité, quand je la mets en pratique, quand je la reçois, je la crois, quand je fais confiance au Seigneur. Amen. En conclusion, puisqu'on sait que c'est bon la vérité pour nous, faisons note ce verset Éphésiens 4, 25, on va le lire ensemble. Éphésiens, chapitre 4 et verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pourquoi, puisque c'est bon pour nous, puisqu'on sait que c'est la meilleure chose à faire, alors renonçons au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Amen. On peut incliner nos cœurs et nos fronts. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, oui. Pour ta vérité. Alléluia. Merci parce que tu as voulu toucher nos cœurs. Tu as voulu ce soir qu'on puisse entendre cela pour bien se préparer. Peut-être quelqu'un avait besoin de réentendre ça, de l'entendre peut-être pour la première fois, de bien considérer sa vie, de bien sonder son cœur pour l'examiner à la lumière de ta parole, comme un miroir nous aide à voir nos tâches, nos soucis, nos problèmes, nos défauts. Seigneur, ta parole est comme ce miroir. Et tu aides chacun d'entre nous à faire le bon choix. Ce soir, tu nous aides à décider pour toi et à cause de toi de marcher dans la vérité, mais aussi à cause de nous, Seigneur, pour qu'on soit sauvés, pour qu'on soit prêts, de ne jamais, plus jamais mentir, de renoncer aux mensonges et de parler avec vérité à son prochain. C'est tellement simple, Seigneur, mais tellement bafoué par le monde. Nous ne voulons pas être de ceux qui se perdent comme le monde. Nous voulons être de ceux qui se tiennent prêts et qui sont véritablement sauvés par toi, non pas simplement parce qu'ils ont signé dans un registre, mais parce qu'ils ont reçu ce salut en Jésus, parce qu'ils ont reçu la parole qui est comme une lumière sur leur sentier, une lampe qui va les guider jusqu'à toi, Seigneur, et jusqu'au ciel. Merci Père de nous avoir parlé ce soir avec vérité et de nous aider à recevoir et mettre en pratique toutes ces choses et de prendre des engagements dans nos vies à chacun. Amen. Amen. Comme appel simplement, peut-être quelqu'un ce soir se posait la question, mais pourquoi Jésus est mort pour moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi? Une partie de la réponse, pourquoi Jésus est mort, c'est à cause du mensonge. C'est à cause du péché que Jésus est mort, et le mensonge est un péché qui nous emmenait en enfer. Et Jésus, parce qu'il nous aime, parce que le Père nous aime, il a envoyé son Fils Jésus, et Jésus lui-même s'est donné pour chacun d'entre nous. Son sang a été versé, ce sang précieux, c'est lui qui nous lave de tout péché. Tout à l'heure, on a dit qu'on serait lavé de nos péchés, c'est le sang de Jésus qui nous lave. Il n'y a rien d'autre qui peut laver nos péchés. De l'argent n'effacera pas nos péchés, des efforts n'effaceront pas nos péchés. Celui qui a tout accompli, celui qui a donné sa vie pour racheter nos vies, c'est le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Jésus est mort à la croix, à cause de ton mensonge, à cause de mon mensonge, à cause du péché. Si on pouvait entendre, c'est vrai, la voix de Jésus sur cette croix qui dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi Jésus t'a abandonné du Père ? C'est pour que nous, on ne soit jamais abandonnés. Pourquoi Jésus a porté notre mensonge, les conséquences de notre mensonge et du mensonge du monde entier? Parce qu'il ne voulait jamais que ces conséquences soient portées sur nous et qu'on aille loin de Dieu pour l'éternité en enfer. Le Seigneur Jésus nous a tant aimés qu'il a donné sa vie pour nous sauver. Est-ce que ça a un prix à mes yeux? Est-ce que ça a un prix à tes yeux? Jésus a un moment été séparé du Père, lui qui n'avait jamais rien fait pour cela. Lui qui l'avait toujours honoré. Lui qui a entendu dire du ciel, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » À un moment, il a été abandonné de Dieu. Il a vécu l'enfer sur la croix pour qu'on ne vive jamais l'enfer dans l'éternité. Et Jésus est vivant. Et aujourd'hui, il peut donner la force à celui qui le reçoit dans son cœur, avec toute sa parole, la force de marcher dans la vérité, de ne plus pécher, de ne plus pratiquer le péché. Et quand on tombera à cause de nos faiblesses, il nous relèvera, il nous donnera la force et on en ressortira encore plus fort, parce qu'on choisira toujours de nous relever et de compter sur sa grâce. On demandera encore pardon et on continuera à avancer, on rejettera encore une fois ce qui nous aura fait chuter, mais on ne tolérera pas le mensonge dans notre vie. À chaque fois que je mens, c'est aussi à Dieu que je fais une offense. Il n'y a pas de mensonge juste à l'horizontale. Tout péché, aussi petit soit-il à nos yeux, a une conséquence pour l'éternité. C'est pour ça, parce que Dieu nous aime, qu'il a tant payé pour nous sauver, pour qu'un jour dans le ciel on puisse dire « Seigneur, merci pour ton amour, merci pour tant de miséricorde, merci pour ta grâce, merci pour ton salut, merci parce que tu as effacé tous mes péchés, merci parce que je suis devenu un enfant du Dieu très saint, moi qui étais un enfant du diable très sale. Merci Seigneur pour tant de patience, ta patience a été mon salut, un jour tu m'as ouvert les yeux, un jour j'ai entendu que le mensonge était grave, tu m'as aidé à choisir la vérité et j'ai bien fait de choisir ça. Amen. » Est-ce que vous voulez demander pardon pour vos mensonges que vous avez déjà dit? Est-ce que vous voulez dire « Seigneur, ce soir, oui, j'ai encore pas réglé quelque chose, je le règle avec toi et je vais le régler dans ma vie. J'ai compris que c'était grave, je veux pas garder ça, ça me ronge à l'intérieur. Seigneur, aide-moi. » Combien de familles sont détruites à cause de choses pas avouées, non avouées? Combien de familles sont rongées par les remords parce qu'il y a du non-dit? Puissions-nous recevoir cette liberté, cette libération de la part du Seigneur? Parce que nous aurons choisi d'aimer la vérité. Et voulons-nous prendre la décision à partir de ce soir devant Dieu de ne plus jamais mentir? J'ai fait ce choix. Et quelquefois il m'est arrivé de tomber, mais je me relève par la grâce de Dieu. Quelqu'un est peut-être tombé, avait fait ce choix, a encore déçu Dieu, s'est déçu soi-même et ne croit plus. Ne crois plus, ne fais pas Dieu menteur. Crois que Dieu peut te pardonner tous tes péchés. Crois que Dieu est encore valable, le sang de Jésus est encore valable pour te purifier et effacer toutes tes transgressions et tes iniquités. Et le Seigneur te relèvera et te donnera la force de ne plus jamais mentir. Amen. Amen.